Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Budapest est plantée en plein cœur de l'Europe. Traversée par le Danube, elle en est un des plus beaux joyaux. Immense capitale d'un tout petit pays, elle est issue de la fusion de trois villes, Buda, Pest et Obuda. Elle était la deuxième capitale de l'Empire austro-hongrois après Vienne. Budapest était d'ailleurs, comme Vienne, une des grandes villes juives de la Mitteleuropa, à tel point qu'on la surnommait Judapest. Le nazisme s'y montra d'une barbarie inouïe. Puis, elle passa aux mains des communistes et devint un satellite de Moscou. En 1956, la ville s'insurgea, mais la révolte fut sauvagement écrasée. En décembre 2001, Colette Fellouz se rendit à Budapest et en rapporta l'émission que nous allons tout de suite écouter.
গত মাসে সাতখানা চিঠি দিয়েছ, আটখানা দেবার কথা ছিল।
Ce que signifie le Danube pour Budapest est une question qui n'a pas de sens, écrit Parti Nagy Lajos, à partir d'une photo de Bruno Bourrel prise au moment de la consécration de la chapelle dans la grotte de la colline Gellert, un jour de pluie. Ce que signifie le Danube pour Budapest est une question qui n'a vraiment pas de sens, puisque sans lui, cette ville n'existerait peut-être même pas. Disponible, amical, le Danube traverse Budapest, trouble et sage, et pourtant, comme les grands fleuves ou comme le temps, il est seulement son hôte et non sa propriété. Cette ville et ce fleuve sont indissociables, mais ils ne se possèdent pas l'un l'autre. Le pont, à l'arrière-plan, derrière les parapluies en forme de carapace de tortue, a porté fugitivement le nom de l'empereur et roi François-Joseph. Pour le moment et pour l'avenir, il s'appelle Pont de la Liberté. C'est un beau pont, mais qui ressemble à un col de dentelle en fonte. Bruno Bourrel vit à Budapest depuis plus de 10 ans et ses photos en noir et blanc prises entre 1989 et 2001 ont l'air de toucher le battement même de Budapest. Ses contradictions, ses élans, ses déchirements, sa beauté, son histoire brûlante qu'il décrit à chaque fois très délicatement à partir d'un visage, d'une ombre, d'une scène de famille, du mouvement de la rue, du dessin d'une porte ou d'un paysage de neige. Budapest, 1er décembre 2001. C'est ce que je note sur ce carnet hongrois à rayures bleues et blanches que je viens d'acheter dans une minuscule boutique de l'avenue Andrássy. L'envie d'aller à la rencontre de Budapest, c'était aussi pour moi l'envie de rencontrer deux écrivains hongrois, Péter Esterházy, qui est né en 1950, et Imre Kertész, qui est né en 1929. Tous deux, avec des voix complètement différentes, ils racontent l'histoire de leur ville, prise entre l'Orient et l'Occident, prise aussi dans cette Hongrie qui a été presque toujours occupée par les Turcs, par les Allemands, par les Russes, et depuis les changements, comme on dit ici, et la chute du mur de Berlin, c'est une nouvelle société qui se met en place, une société qui se cherche, prise elle aussi par les traces de son histoire très ancienne et l'envie d'être aujourd'hui un pays tourné vers l'Europe. C'est d'ailleurs pour se familiariser un peu plus avec la culture hongroise que la saison culturelle hongroise en France a inventé depuis juin dernier de nombreuses manifestations, des concerts, des expositions, des rencontres d'écrivains, de poètes, de cinéastes et de photographes. Une saison intitulée « Magyar » qui veut montrer en effet toutes les facettes de l'esprit artistique hongrois. Budapest, 1er décembre, c'est donc le premier volet de ce voyage. L'autre sera en février avec Péter Esterházy, Eva Almasi et Christina Toth. Il est aujourd'hui orchestré autour de plusieurs points de la ville, à Buda avec Imre Kertész, au café Eckermann avec la cinéaste Katalin Passmanty, dans un vieux passage de Pest avec le poète Janos Laksi, au café Bambi avec Christophe Forgas, au musée d'ethnographie avec Peter Granastoy, dans une maison de danse aussi avec les amateurs de danse transylvanienne, et un peu partout dans la ville avec Bruno Bourrel. Première scène, l'Astoria. C'est la scène dans l'Astoria, l'endroit qui n'a pas bougé depuis des lustres, on peut dire, avec ces lustres justement.
C'est le petit format, quoi. Si tu vas donc à l'opéra, à l'académie de musique, tu trouves le grand format avec des, tu vois, des perles comme ça. Et t'en as, en ce moment, maintenant ils marchent tous. C'est vrai qu'il y a 10 ans, tu rentrais dans des endroits comme ici, où justement l'opéra, l'académie, tout ça, t'avais toujours des, tu vois, des ampoules qui marchaient pas, des trucs qui étaient un peu...
Ouais, c'est retapé.
Un peu, bah ouais.
Et quand on s'était vu il y a 7 ans, il y avait un côté fantomatique dans certains quartiers, des délabrés. On sentait que les promoteurs allaient sauter sur
lieux. Il en reste encore très peu. Si tu veux, l'argent a pris la valeur de l'argent a pris une ampleur terrible. Je ne parle pas de la valeur fiduciaire, tu vois, de bourse et tout, mais le fait d'en avoir, de pouvoir en dépenser, d'en gagner plus que le voisin. Mais là, c'est pas que ça, c'est vraiment au niveau de l'État, quoi. Tu vois, c'est au niveau de l'État, des politiques. Qu'est-ce qui peut se mettre le plus d'argent dans la poche? Mais moi, je pensais à ça hier, évidemment. C'est inhérent au système parce que quand tu as eu tout un truc de privatisation, hein, parce que tu avais une économie qui était complètement dans les mains de l'État, tu t'es aperçu quand ça tombait, quand c'est arrêté, que tout était en ruine, en fait, c'est-à-dire que dès qu'il pleuvait, tu ne pouvais pas téléphoner en face, tu vois, de Budapest, tu ne pouvais pas téléphoner. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient extrêmement ralenties. Et puis le système, bon, ça a changé. Mais comme en fait, tout le tissu industriel a été obligé d'être vendu, puisque les gens ils se sont dit, bon, ben, quelle est la manière que ça change au niveau concret, et, tu vois, c'est d'amener des capitaux. Donc allons chercher où. Allons voir où sont les capitaux. Donc ils ont fait des appels d'offres, des machins, des trucs, et classiques. Et donc c'est vrai qu'il y a eu tout a été privatisé. Mais qui dit privatisation dit commission, dit magouille, dit machin, copain, tout ça. Donc ça c'est...
Corruption.
Corruption, donc c'est triste. Mais je me demande si ça ne va pas. Et je pense que dans tous les pays de l'Est, c'est pareil. Enfin, ex de l'Est, disons à l'Est de l'Europe... si tu veux, l'ancien système dit communiste qui a glissé vers l'économie de marché entre les guillemets libérale sauvage allait de pair avec la corruption, quoi. Parce que la privatisation, c'est vrai qu'il y a des exemples des grosses fortunes, et c'est vrai que bon, bah, c'est des gens qui faisaient partie de l'appareil précédent, et tu as des gens qui ont pris des gros paquets, vraiment. Ah, évidemment, essentiellement, c'est l'immobilier. Ah. Parce que tu as des pans entiers de quartiers, tu vois, de choses comme ça. C'est les usines. Donc, une partie du tissu industriel. Alors, 3 ou 4 ans plus tard, il y a eu des enquêtes et tout. Mais maintenant, c'est en train de retomber, en fait. Il y a eu quelques procès. Bon, mais les gens s'arrangent, ils font des négociations. Il faut voir qu'il y a toute une classe. 90-91, les gens, t'as commencé à les voir rouler en Mercedes avec des gardes du corps, des machins, des trucs. Bon, bah, t'as des gens qui te disent, c'est pas possible qu'il n'y ait pas des magouilles, tu vois, tu peux pas. Et donc, ça t'envoie. Je veux dire, t'en as encore. Hein, ceux qui sont là maintenant, justement, c'est ceux qui sont protégés, qui sont installés, qui ont leur couverture politique, etc. Donc, ils sont, tu vois, maintenant, ils sont aussi bien à droite qu'à gauche. À gauche qu'à droite, ils n'ont pas d'histoire. Bon. Mais ces gens-là, ils ont eu des procès l'année dernière et tout. Et t'entendais, les news disaient, ils sont en train de négocier. C'est-à-dire qu'en fait, tu voyais le mec avec ses menottes, il donnait des interviews à la presse. Moi, j'ai jamais vu ça en France. Des gens qui sont accusés de détournement de fonds et tout ça, qui font des conférences de presse, des exclusivités. Alors le lendemain, t'as un canard qui vend sa une interview exclusive de machin, alors qu'il est... plus ou moins sous les barreaux, tu vois. Enfin, et puis il y a un manque de maturité, évidemment, politique. Mais ça, on ne peut pas le rendre, on peut pas... Si tu veux, ça, c'est inhérent aussi au fait que Bon, la première fois que je suis arrivé, donc en 89, quand il y avait cette cérémonie de réhabilitation des martyrs de 1956, donc qui étaient jusqu'ici considérés comme des traîtres, qui ont été donc pendus en 56, qui ont eu des procès plus ou moins staliniens, etc. Bon. Et ils ont été donc réhabilités en tant que héros de la nation, disons, en juin 89, dans une énorme cérémonie sur la place des héros, qui a vraiment déclenché le changement, si tu veux, enfin le changement, c'est-à-dire que ça, c'était vraiment le point final au système communiste, où les communistes se sont retirés, on dit, bon, bah voilà, on se retire, il va y avoir des élections, etc. Et donc, à cette cérémonie, tu avais 400 000 personnes sur la place des héros, tu avais des délégations du monde entier, de réfugiés de 56, tout le monde revenait. C'était vraiment la première fois où les gens revenaient parce qu'ils pouvaient voyager, tu avais les passeports commençaient à arriver, tout ça. Et à la fin, le dernier type qui a pris la parole, c'est ce Viktor Orban, qui est aujourd'hui Premier ministre, qui a, je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, 36-37 ans, bon, et qui à l'époque dirigeait la FIDES, donc la Fédération des Jeunes Démocrates, qui était vraiment le mouvement politique interdit, tu vois, très très underground, de chevelu, barbu, plus ou moins beatnik, etc., qui était vraiment... Et ce type a été le premier à demander le retrait des troupes soviétiques, tu vois, officiellement. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la tribune, alors que c'était pas vraiment prévu qu'il allait dire ça. Et donc il a vraiment dit pour la première fois aux yeux du monde entier, puisqu'il y avait les caméras du monde entier, bon ben voilà, maintenant il faut que les Russes se retirent. À ce moment-là, ils étaient encore là. Et dans les trois mois qui ont suivi, bon ben ils sont partis, si tu veux. Mais lui, c'est vraiment le seul. Il est Premier ministre aujourd'hui, qui est maintenant complètement à droite, qui a viré tous ses potes avec qui il était, dans cette FIDES, tu vois, qui a gardé un noyau dur de gens conservateurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui se sont alliés avec la droite, quasiment l'extrême droite, et s'il n'y avait pas eu des histoires de discours antisémites, tu vois, ils y seraient encore. Et ces gens-là se sont fait des fortunes. Et ça, je crois que c'est inhérent à ce système. À mon avis, tu pouvais pas... C'est vraiment les systèmes qui ne pouvaient pas faire autrement. Tu as aujourd'hui deux, trois types purs qui étaient dans ce FIDES, qui sont vraiment purs, c'est-à-dire qu'ils sont encore chez eux, dans un deux pièces, à être plus ou moins intellectuels, chercheurs, tu vois, sur des trucs. Mais ils crèvent la dalle, les mecs. Ils ont 50 000 forines par mois. Mais ils sont restés purs, je crois. Mais ils sont très, très, très peu. Et ces gens-là, tu vas les voir aujourd'hui, ils te disent, ce Viktor Orban, c'est un stalinien. Et ils te le démontrent, en fait. Et je crois que quelque part, ils ont raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient d'avoir une médaille de la fondation Franz Josef Strauss en Allemagne, qui est une fondation Josef Strauss, c'est un mec qui était à droite, tu vois. Tu vois, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est rendu compte qu'en fait, lui, il avait une bande de mecs de 35 balais avec les boucles d'oreilles, les cheveux longs. Tous les mecs se sont, tu vois, rasés, costumes, cravates et tout le merdier. Et puis évidemment, ils ont été obligés de s'entourer de conseillers un peu d'expérience. Donc les seules personnes qui avaient l'expérience, c'est soit les gens qui faisaient partie de l'appareil communiste, soit les gens qui étaient dans les gouvernements précédents. Donc c'était des gens de la génération bien au-dessus de lui, pour être un peu crédible au niveau économique.
Il n'y a pas eu de relève, il n'y a pas de jeunes
non.
qui s'opposent.
Non. Non, parce que si tu veux, les jeunes aujourd'hui, eux, à l'époque, ils avaient une matière énorme pour se rebeller, qui était justement ce système, tu vois. Maintenant, les jeunes, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner du pognon, acheter une bagnole, aller au resto,
consommer.
Tu vois, d'acheter des disques, d'écouter de la musique, de faire la fête, de voyager aussi, de voyager, ça c'est un truc qui est... Parce que leurs parents ne pouvaient pas voyager, donc si tu veux, pour eux, voyager, c'est un truc qui est... Donc c'est vrai qu'à la limite, on pourrait leur pardonner tout comportement, je veux dire, mercantile, parce que, bon, c'est... Mais à la réflexion, tu te dis, il faudrait aller un peu plus loin, tu vois, il faudrait quand même qu'ils regardent qu'est-ce qui est en train de se passer, justement, chez ces jeunes qui sont maintenant au pouvoir et qui sont en train de structurer la société de manière, à mon avis, négative.
Et si chacun dans ce carnet a choisi un lieu pour raconter Budapest, son propre Budapest, le poète Janos Laksi a choisi un passage tout près de l'hôtel Astoria, Parfois, je cherche dans ma maison un étranger, écrit-il. Je n'ai pas de chien. Et le jardin a beau murmurer encore si je pouvais trouver dans un cendrier ses ongles coupés ou la chaleur de ses pieds dans une chaussure ôtée, mais apparemment, quelqu'un d'étranger se promène dans les chambres quand je ne suis pas chez moi. Rendez-vous avec Janos Laxi.
C'est là votre passage, le passage que vous vouliez nous montrer.
C'est pas le passage, mais c'est la, le passage est tout près. Mais c'est la maison, un bâtiment où habitait le vieux dentiste que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, c'est quelqu'un de vraiment. C'était quelqu'un de très particulier, un vieux d'une autre époque encore, forcément anticommuniste, qui avait de vieux instruments de dentiste, qui avait une roulette qui tourne très 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 lent. C'était presque une torture, une vraie torture de supporter, de subir ça. Enfin, à l'époque, j'étais enfant, puis j'étais ado, et son travail était tout à fait reconnaissable. Donc tous les dentistes chez qui je suis allé par la suite, quand j'ai ouvert la bouche, ils ont dit « Ah, il est encore en vie, le vieux Pichta. Ah, c'est fantastique, c'est incroyable. » Enfin, je ne sais pas si son appartement existe encore ou non, mais il était un vrai personnage légendaire de Pécs. Donc tout le monde le connaissait. Il y a encore l'appartement. Je suppose, comme il est mort, je suppose qu'il y a, comme peut-être l'appartement a été vendu.
Et là,
c'est là son appartement, je ne sais pas.
Ah oui, c'est là.
On essaye ou je...
On essaye, on va sonner.
Oui.
C'est drôle de vouloir absolument retrouver le lieu où on vous a torturé.
Voilà.
C'est curieux aussi cet immeuble. Il y a beaucoup d'immeubles comme ça à Budapest. On ne sait pas s'ils sont habités, si ce sont des lieux un peu fantômes. Hein.
Oui, hallucinant. Mais c'était là leur appartement en haut où il n'y a apparemment rien. Il y a cette échelle, les poutres, les plaques, je ne sais pas.
Et vous avez un... Quel lien avec justement cette enfance et adolescence où il y avait la période où les communistes étaient là? Comment c'était?
Enfin, c'était... D'abord, c'était comme pour tout le monde, ceux qui étaient enfants pendant la guerre. Enfin, ils avaient quand même des nostalgies, pas de la guerre, mais de l'enfance. Donc, j'ai, de la même manière, j'ai des nostalgies de l'enfance.
Vous êtes né en 71.
Oui, voilà. Et alors là, c'était le monde. Le monde est comme ça. Enfin, c'était pas toujours communiste, ce le sera toujours, on croyait. Ça sera communiste, je sais pas, jusqu'à notre mort, on croyait à l'époque. Et enfin, il y avait deux sortes de manières de parler. Et on vivait dans le mensonge, mais pas avec une majuscule, mais tout simplement. Enfin, c'était tout à fait naturel. On mentait comme on respirait. Enfin, on savait ce qu'il faut dire à l'école. Enfin, ce qu'on parle chez nous. On savait aussi des personnes de l'entourage ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Enfin, on avait des soupçons sur les personnes qui étaient des espions peut-être dans notre entourage et tout ça.
Là, par exemple, dans un même immeuble, on savait.
Enfin, oui.
Il fallait pas parler à certains.
Il y avait d'abord les. Comment ça s'appelle les...
Les concierges.
Voilà, les concierges. Les concierges, comme Heising a dit que le nazisme était la révolution des concierges. C'était aussi vrai, enfin, pour le communiste. Ce n'était pas eux qui dirigeaient, évidemment, mais ils avaient un rôle important. Et ici aussi, chez ce vieux-là, le concierge, c'était celui qui a pris les biens de la famille. Enfin, c'était une époque assez composite. On avait, je sais pas, des envies de, pour tout qui est venu de l'Ouest, les jeans, les choses comme ça, tout ce qui est, enfin les voitures, il y avait certains qui pouvaient payer ou bien faire payer avec leurs parents qui vivaient à l'Ouest, des voitures de l'Ouest. Et même si c'était vieux, même si c'était, je ne sais pas, pas très bien retapé, enfin ancien modèle, c'était une voiture de l'Ouest. Enfin, c'était une époque double. Hein. On avait des masques et on savait jouer. Et quand tout a changé, tout d'un coup, c'était vraiment incroyable. Donc, je sais pas, je me rappelle encore, on s'est rassemblés dans une maison de culture, dit de culture. Et il y avait un personnage qui est venu, qui est devenu par la suite, je ne sais pas, ministre de la Défense, et qui est venu parler, c'était un professeur d'histoire, qui est venu parler de vraie histoire. C'était pas du genre quand est-ce que l'Union soviétique va dépasser économiquement les États-Unis. Ça, c'était programmé, pour ainsi dire. Hein. Et alors, il est venu parler de, je ne sais pas, des blessures historiques, etc., un peu de questions d'identité, identité nationale en partie. C'était des choses vraiment, on était vraiment aux larmes à l'époque.
Et c'est difficile peut-être de se défaire aussi de ces mentalités qui ont pesé. C'est fini autant. Maintenant c'est...
Non, enfin. Donc, ce qui est important, c'est que les personnages, les gens restent les mêmes. Les pôles, les pôles électriques, magnétiques changent. Ça veut dire les pôles électriques, magnétiques, c'est le plus souvent l'intérêt, l'argent qui dirige la société. Enfin, pendant le communisme, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Ce sont d'autres endroits qui magnétisent les gens, qui attirent les gens. Je ne veux pas dire que le capitalisme égale à communisme, parce que ce n'est pas vrai. Parce que maintenant, on peut faire tout. Enfin, on est limité par ses moyens financiers. Mais moi, je fais ce que je veux, ce que j'aime. Je fais de la littérature, que de la littérature. Ça veut dire que je dois faire des choses entre guillemets accessoires, je dois enseigner à l'université, écrire des articles de journaux. Et on n'est pas encastré, on peut aller n'importe où. Et je veux aller justement là où je suis.
Et si vous nous lisiez un poème aussi?
Oui, volontiers. Justement sur la ville, si vous voulez.
En français, ça? Alors, puisqu'il est traduit.
La ville des sosies. Dans la ville des sosies, personne n'est le même. Des connaissances apostrophées rient de façon drôle en haussant les épaules. Tu peux aisément prendre un passant se tenant dans la porte cochère pour un garçon de boutique, ainsi que des membres du public pour des acteurs. Tu ne peux savoir si l'homme qui nettoie les bureaux n'est pas le directeur. Parfois, c'est le brancardier qu'on pose sur la civière et il arrive que le pompier provoque l'incendie. Les policiers prennent des airs, se battent, les verriers cassent les vitres, l'électricien vole des câbles. Lors d'un enterrement, il se peut même que tu présentes tes condoléances aux défunts. Fais bien attention dans la ville des sosies, car tu peux vite être impliqué dans quelque affaire louche. Les gens dans la rue te prennent pour un cambrioleur ou un voleur à la tire. Et peut-être quelqu'un qui te croise reconnaît en ta personne l'assassin de son père. Il arrive même, quoique ce soit beaucoup plus rare, que ton protégé, que tu n'as jamais protégé, te serre vigoureusement la main, les yeux pleins de larmes. C'est un lieu dangereux. N'y va que lorsque tu commences à oublier qui tu es.
Voilà. C'est beau. C'est en fait le double, peut-être cette ville des sosies, cette ville double qui est à l'origine peut-être des deux villes qui se font face aussi.
Oui, l'expérience du communisme, c'est l'expérience de l'existence de l'absurde. Enfin, et y retrouver une sorte de magie de l'absurde, la magie de l'inattendu, je crois que ça, c'est très évident. En fait, pour moi, oui.
Je crois qu'il n'a pas répondu, le dentiste. Hein.
Non. Enfin, comme il est mort. Hein.
Il n'y a plus personne.
Ben oui.
Cataline Passementi, qui a raconté, elle, son Budapest intime dans un moyen-métrage qu'elle a appelé « La vraie vie », a choisi le café Eckermann comme lieu de rencontre. Le café Eckermann, qui dépend de l'Institut Goethe, est décrit dans le livre d'András Török, « Budapest, ma ville, guide du flâneur », en ces mots. Une plaque à droite de la porte rappelle qu'ici se trouvait le café des Trois Corbeaux, où le grand poète André Hadi passait presque toutes ses soirées. L'Institut Goethe est un relativement nouveau venu à Budapest, car jusqu'à la chute du mur de Berlin, le centre culturel de la RDA était le seul représentant officiel de la culture allemande. Pourquoi l'endroit s'appelle Eckermann ? Parce que le café se doit d'être au service des arts et de la littérature, tout comme Eckermann, le secrétaire de Goethe, était au service de son maître. Dans une vitrine, on voit même une copie d'une première édition de son livre « Conversation avec Goethe ». Ce jour-là, à ce rendez-vous avec Cataline, le café à un moment s'est transformé en un vrai salon de musique. Mais très vite, c'est devant les images de son film que la conversation s'est engagée.
C'est une façon aussi de raconter Budapest comme vous avez fait, Cataline, en traversant comme ça des histoires, comme des récits de vie, de gens anonymes, de passants, de voisins.
L'idée, c'était de faire une carte, une topographie des pensées. Je ne voulais pas faire d'autre chose que de chercher les pensées. C'est incroyable, les gens qui passent dans la rue et que tu vois tous les jours et que presque tu connais leurs pensées. Et bon, c'est une carte de l'âme, un peu. Mais d'ailleurs, c'est drôle, puisqu'on a l'impression que tout le monde est un peu fou.
Le titre même de votre film, La vraie vie, peut résumer aussi l'histoire, ou peut-être le point de vue, puisque c'est votre histoire, à partir de votre histoire, de votre trajet. Et la citation à la fois de La vraie vie est ailleurs, peut-être de Rimbaud, et puis aussi la question de est-ce que votre vie, ici, votre alors, réel est bien réel.
Pour moi, c'est vraiment, il y avait déjà à l'enfance, à Budapest, alors après en étranger, et depuis que je suis revenue, c'est toujours la question, il y a toujours une
interrogation.
Est-ce que c'est vrai tout ça?
Et ça, est-ce c'est lié à justement aux invasions politiques, parce que vous êtes né juste après 56, en fait. Vous êtes né en 58 et vous êtes parti à 18 ans. Vous avez quitté, comme d'autres Hongrois ont eu envie de quitter, de fuir.
Oui, alors...
Est-ce que c'est lié aussi à
bien sûr que c'est lié, ça vient de l'enfance, puisque... Quoi, je ne sais pas comment raconter. Alors, quand on est... Moi, je viens d'une famille qui vivait une vie complètement prolétaire. En même temps, mon père était le dernier petit-fils d'une grande famille noble hongroise. Alors, on a vécu vachement pauvre avec le truc noble de la famille énorme sur la mur.
Sur les murs, oui.
Et c'était très, très angoissant, tout ça. Alors, mon père, comme c'est dit dans le film, il était tout à fait perdu. Et puis ils sont divorcés et ma mère, pour me défendre, elle voulait jamais parler de la... C'était pas vraiment à la mode de devenir d'une famille noble. Et elle a jamais parlé non plus de la guerre et de 56, de rien, pour nous défendre. Enfin, qu'on va pas à l'école, comment ça, raconter des choses comme ça.
Ah oui, donc il y avait quand même quelque chose de caché.
Aussi, oui, ouais. C'était complètement caché. On était, enfin, moi, j'ai vécu dans une brouillard incroyable de pas savoir, de méfiance, de suspicion.
Oui, avec cet immeuble que vous filmez, ouais. La cour où tout le monde se regarde, ouais, dénonce les uns les autres.
Oui, mais c'est même après à l'école. Et puis après à l'école, c'était, il y a avec une chose qu'on a fait très conséquent, c'est de détruire les personnalités. C'est de détruire le courage civil, c'est de détruire la dignité qui, quand je vois la première fois que je suis allée à Paris et j'ai vu la colonne vertébrale des gens, c'est pas comme les Hongrois. On marche pas dans la rue. Et puis c'était ça. Alors, à l'époque, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on s'est groupé, on était dans les petites groupes. Et ce qui était drôle en dedans, que on savait que nous sommes déviants par rapport aux autres, mais que notre déviance, c'est en fait une normalité. On était déviants, très profondément déviants, mais quand même ensemble, quand même dans une communauté, une cercle d'amis. Et puis c'est comme ça qu'on a essayé de se sauver à l'heure.
Oui, donc il y a eu des milliers de Hongrois qui sont partis, en fait, qui ont fait leurs études ailleurs, qui ont...
Quand on est parti, on est parti pour étudier. On est parti pour... en fait, quand je suis partie, j'ai eu presque des attaques asthmatiques, déjà. C'est devenu tout à fait somatique, l'angoisse et la vie de la ville, cette méfiance de tous, et qu'il n'y avait pas d'informations, que c'était pas aimable, que c'était dans la ville, il n'y avait rien qui était aimable. On n'en a pas rendu compte qu'on vit dans une ville jolie. Vraiment belle. Budapest est belle.
Et donc on
mais à l'époque, c'était gris et l'atmosphère, c'était si lourd et si... comme si on était étranglé. Alors, quand il y a beaucoup de monde qui est parti, qui ne voulait pas partir du tout, qui a beaucoup souffert en partant. Mais pour moi, à l'époque, je crois que c'était le meilleur pas que j'ai jamais fait dans ma vie. Je pense que peut-être c'était le seul moment dans ma vie où je pense que c'était vraiment la vraie vie, ma vraie vie, cette arriver à Paris et aller à Londres et faire les écoles l'une après l'autre et étudier.
Ça vous paraissait réel, ça.
Et oui, et puis, mais en même temps, on était toujours entre amis. On était toujours à Berlin, à Paris, à New York, partout, il y a des amis de ce petit cercle d'enfance.
Et aujourd'hui, donc, vous avez, après avoir vécu à Berlin, à Londres, depuis 1994, vous êtes là, vous avez rejoint votre ville, que vous dites comme dans le film, vous dites « j'ai appris à aimer toutes les choses, le tramway, les passants, les gestes de chacun ». C'est comme si vous vous refaisiez aussi presque un scénario aussi, un nouveau scénario et que ce sont aussi des personnages.
Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de pouvoir vivre quelque part. Il n'y a qu'une manière, c'est d'apprendre l'aimer, de trouver des contacts aux objets, aux choses. Et puis, j'étais obligée à cause de mes enfants. On ne peut pas se balader dans la rue comme ça, seulement sauvage et déviant à l'âge de 40 ans avec deux garçons qui vivent leur vie absolument réelle, leur enfance à côté de moi. Alors
Et aujourd'hui, donc, l'évolution politique du pays, comment vous la vivez, vous ?
il y a un truc contagieux que on n'est pas digne même vers soi-même. Et je crois que c'est dans la politique, aussi dans la politique et dans la vie quotidienne, il y a un énorme manque de respect de soi-même, du respect de l'autre. C'est pas normal qu'on pense les gens. Ça devient... l'autre fois, j'étais au cours de violon de mon fils et il y avait un projet d'un étudiant sur le mur, en anglais. The project of my life. Past, present, future. Et il y avait sur le... Pour la future, il a écrit « Ah, j'adore ficher, j'adore les poissons, mais en tout cas, je vais devenir un homme énormément riche. » Alors, c'était ça, c'est tout.
Son but, c'était ça.
Oui, alors c'est ça. Alors, bon, on va voir.
Et ça, c'est peut-être qu'un passage, peut-être que ça va aussi changer, c'est comme la...
Dans le film que le vieux...
Oui. Il y a des personnages extraordinaires dans votre film. Il y a cette femme qui est poète, qui n'a plus de maison, qui est à la rue et qui philosophie aussi sans cesse, comme ça, qui a un point de vue aussi sur exister, sur qu'est-ce que vivre et qui préfère ne plus rien avoir finalement.
Quand j'ai parlé de la manque de dignité, c'est pas dans ces cas-là, c'est pas. Il y a quand même une autre sorte de dignité des Hongrois, c'est de pouvoir réfléchir. C'est tout le producteur, quand il a regardé le film, il m'a demandé tout de suite, mais tous les Hongrois, ils sont des philosophes. Oui, on peut dire, puisque ça vient peut-être de cet effet de prison, qu'on était tellement fermé, tellement, on était obligé de faire des contacts très intimes, d'entrer dans des intimités profondes, de réfléchir sur les... Mais c'est quand même c'est quelque chose de complètement gonflé de penser des grandes questions de la vie comme ça. Dire tout de suite leur opinion des choses vraiment fondamentales.
Oui, ça permet aussi de vivre aussi pour elle, parce qu'elle n'a rien, elle n'a pas grand-chose en tout cas. Ouais. Et cet homme qui va dans les nénuphars aussi à la fin du film.
Ah, il est génial. Lui, il est le plus déviant de toute la communauté qui habite autour de moi. Il vient d'une famille noble aussi, et puis il a encore un membre de famille à Vienne. Il reçoit ses vêtements incroyables de chasseur et je ne sais pas quoi. Il est très, très fier et très, très noble. Et il fait la philosophie. Il boit, il fait la philosophie tout le temps. Et puis, il est génial. Pour moi, c'était beau de voir tout ça, d'écouter tout ça, puisqu'à l'époque, quand je suis arrivée, j'ai pensé que c'est moi qui est normal. Et ici, tout le monde est un peu dans le brouillard et il dort, je ne savais pas qu'est-ce qui se passe quand tu regardes les gens au tramway et tout ça, tu vois pas, tu as l'impression qu'ils sont enchantés, que toute la ville dort et qu'il n'y a pas de possible. C'est pas comme ça.
Oui, il y a quelque chose d'irréel, hein, de somnambule.
Oh, ouais. Mais quand tu y vas, quand tu commences à parler, et quand il s'ouvre, tu vois une richesse incroyable. C'est génial, je trouve ça, tout ça génial. Je trouve génial quand l'esprit est beaucoup plus fort que l'environnement et que l'existence, qu'on ne se laisse pas détruire dans le rien, dans des problèmes existentiels, dans tout ça.
Et tous ces visages aussi de gens âgés, hein, que vous avez filmés aussi, hein, comme si c'était là aussi des...
Tu ressens ce que j'ai dit là?
Qu'on
voit sur les
qu'on
visages
voit toute l'histoire de... et oui. Mais qu'est-ce que vous avez?
Ce qui est drôle, que quand on était jeune, on a pensé, en fait, pendant très longtemps, on a pensé qu'on va jamais devenir si adulte que nos parents, qu'on ne va jamais devenir adulte. Et il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé les lettres de ma mère, des lettres amoureuses, des lettres aux copines et tout ça. Et tout ce que j'ai lu, et après que j'ai réfléchi, que je crois qu'en fait, nous, à l'âge de 17 ans, 18 ans, on était beaucoup plus âgés, beaucoup plus adultes, ou beaucoup plus prêtes à la vie que nos parents. Il y a, c'est drôle, les deux générations, puisque nous, on était, notre problème, c'était qu'on n'avait pas une histoire, qu'on était renfermés, que le temps s'est arrêté. Il n'y avait pas de la guerre, il n'y avait rien à bouger, il n'y avait pas d'informations. C'était vraiment comme une frise, comme une image frise, et il n'y avait rien. On ne savait pas qu'est-ce que c'est l'histoire. Et nos parents, ils vivaient la guerre, les camps de concentration et tout ça, et je ne sais pas quoi. Et eux, ils étaient beaucoup plus romantiques et... Ils ont pas compris pourquoi nous on est déprimés, qu'est-ce qui se passe. Et même nous-mêmes, pas même dans la guerre, on n'était pas si perdus et je sais pas quoi. Je crois qu'on est beaucoup plus blessés, nous, ma génération, que la génération de nos parents qui étaient dans la guerre et qui étaient des héros et qui étaient vraiment dans la vie. Alors cet décalage de ce contact qu'on a perdu à la vie, c'est ça un peu la question de la vraie vie, qui vient de l'enfance.
De Pest à Buda, c'est le
pont de Chêne, en fait, le pont c'est Chêne aussi, le nom du gars qui l'a pensé. Et donc vous voyez ces deux énormes lions là qui sont de chaque côté. C'est le plus ancien des ponts, le plus beau je crois d'ailleurs,
ouais.
Parce que bon, ils ont tous, comme tous les ponts ici, ils ont été détruits à la fin de la dernière guerre, puisque les Allemands étaient à Buda et les autres étaient de l'autre côté. Donc au moment où les Russes sont arrivés, les Allemands sont partis, et ben, ils ont fait sauter les ponts. C'est un fleuve très large. Hein.
C'est vrai que c'est vraiment... C'est large, là, c'est tellement beau.
Là, c'est quand même bien dégagé. Tu vois beaucoup de... Tu vois toutes les collines. Donc là, parce qu'en fait, on passe à Buda, et en fait, Buda est un ensemble de collines, voilà, je ne sais pas combien, mais tu vois là, c'est quand même bien dégagé, tout là où les antennes, là on monte jusqu'à 500-600 mètres, bon c'est pas très haut, mais et justement sur ces collines là, il y en a quand même deux ou trois, où quand il y a plus de neige que ce qu'il y a en ce moment, il y a donc de luge et ski sont beaucoup pratiqués, petit sport d'hiver en ville. Et tu vois cette île, là au milieu, tu as le pont Marguerite, tu vois, qui est un pont qui est en deux parties. Et au milieu, tu as un énorme massif d'arbres, là, ça c'est une île, en fait, qui est donc entièrement piétonne, qui fait 2,5 km, je crois, ou 3 de long. Et tu as des grandes étendues, des grandes prairies pour jouer au foot, jouer au frisbee, jouer, etc. Donc le week-end c'est plein, l'été on vient là en pique-nique, en famille. Là tu es au milieu de la ville, c'est quand même assez étonnant. Tu as deux ou trois arbres qui sont... je crois des Turcs de l'époque, tu vois, des Turcs 13-14e siècle. C'est des trucs vraiment massards, des arbres incroyables. Là, tu sens aussi le poids de... C'est donc cette île Marguerite, parce que je crois que c'est tout relié à...
Et dans toutes ces pages de Budapest, il y a eu non seulement ce pont de chêne, mais aussi le café New York, le café Central, le café Castro, la fontaine Mathias, le bastion des pêcheurs, la gare de l'Ouest, le pont et l'île Marguerite, justement, l'ancienne rue Mayakovsky, la colline Gellert, le Danube, vu comme un roman, l'hôtel Astoria, de nouveau, la maison de la photographie Maimano, le café Incognito, les petites tavernes avec les soupes aux haricots, les maisons de danse, le marché de Noël, près du café Gerbeau, les bains Kirali, le musée d'ethnographie, le marché Opus d'Exeri, le samedi matin, avec le vin chaud ou l'eau de vie d'abricot, la Palinka, la synagogue Art Nouveau, une des plus grandes d'Europe, la place Vörös Marti, la statue de Joseph Nador, le grand magasin Luxus, l'avenue Béla Bartók, et aussi le café Bambi, où Christophe Forgas a choisi, lui, de raconter sa ville. Ici, les joueurs de cartes ont l'air de ne pas avoir bougé depuis des années, et les serveuses, pas toujours très commodes, ont l'air, elles aussi, de surgir d'un autre temps.
Il dit qu'il est désolé, mais ces dames sont vraiment comme les meubles d'ici alors.
Et j'ai un mec fait un michel qu'elle mec.
Alors c'est comme ça qu'elle se comporte.
Ce sont les trois. Ouais. Ouais,
mais c'est la charme de l'endroit.
En même temps, c'est vous, donc Christophe, vous avez choisi ce lieu comme un. C'est presque un musée de.
Finalement, c'est l'un des rares lieux qui est resté comme il était avant.
Qui n'a pas changé.
C'est justement pour ça que sa valeur a monté.
Mert már nem fenyeget minket az a fajta szocialista.
En fait, c'est plutôt une romantique. Mais c'est dommage que les cafés comme ça sont perdus.
Et sont disparus. Ce café Bambi. Nostalgie, vous aussi, Cataline, vous aimez ce lieu, Bambi, avec ses grands ventilateurs.
J'adore ça, puisque c'est justement qu'à l'époque, c'est la chose que j'ai dit tout à l'heure, que l'environnement, c'était moche. C'était pas aimable du tout, mais comme on a vécu notre enfance ici, on l'a adoré. Il y a une amour, une chaleur en dedans. C'est, mais ce que j'aime pas tellement, c'est du reflet sur une autre tour, du reflet sur une autre chose. Il n'y a pas comme. Je crois qu'en Europe de l'Ouest, il y a des choses qui sont évidentes, qui sont claires. Quand tu parles d'un objet, c'est clair que tu parles de ça. Ici, c'est pathétique.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des couches.
Ouais. Il y a des couches de d'appréhension de tout ça.
Et ces joueurs, ils étaient là aussi.
Ils sont, je crois, beaucoup meilleure humeur. Et ça fait sa charme.
Et vous êtes comme des nouveaux romantiques ? Est-ce qu'il y a une génération de nouveaux romantiques ?
Egy kicsit egy ilyen új romantikus, vagy van egy ilyen generáció az új romantikának? Probablement.
Elképzelhet, hogy van egy ilyen tendencia.
C'est bien possible, c'est imaginable qu'il y a une tendance,
Van egy ilyen tendencia, hogyha ez a recycling kultúra ez létezik, már pedig van, akkor tényleg mondhatjuk úgy, és én ez alól nem vagyok kivétel.
Si ça existe, cette culture de recycling, alors on peut dire que c'est ça justement, et j'y appartiens aussi.
Igen. Politikában szerintem egy elég komoly csalódottság van, legalábbis én saját részemről szubjektíven abszolút így érzem.
C'est ce que je ressens personnellement, subjectivement.
Ami nyilván azzal függ össze, hogy a...
Et c'est certainement dû à la fête que...
Hogy ugye a berlini fal leomlása után nagyon sok...
La mur de Berlin est tombé.
Illúziója volt a társadalomnak.
La société a eu tout d'un coup beaucoup d'illusions,
hogy
beaucoup
de désirs.
On a pensé qu'il y a une bonne politique, que c'est possible d'avoir un gouvernement qui travaille pour la société. Et ce gouvernement actuellement qui était en opposition et maintenant il a le pouvoir.
Elkövettek olyan, olyan, hát olyan Saulus-i vagy Paulus-i fordulatot vettek? Tehát, hogy olyan 180 fokos változáson mentek keresztül.
Ils ont retourné leur veste.
Ils ont retourné leur veste 100% et tout le monde tourne la veste sans problème pour arriver au pouvoir et c'est décevant.
És én azt gondolom, hogy az, hogy még ez már egy komplexebb dolog, de hogy
c'est peut-être plus complexe, mais je crois encore, je pense aussi que...
Hogy... hogy Magyarország, ugye az előbb mondtam, hogy van ez a földrajzi helyzet, ez a geográfiai helyzet.
Une situation géographique.
Amiben ugye... Itt éltek, a törökök itt voltak 200 évig.
On sait qu'il y avait pendant 200 ans, il y avait des Turcs.
Aztán az osztrák-magyar monarchiában is megszállottak voltunk. Aztán az szovjetek, ugye...
Qu'on était toujours occupés après par les soviets.
És az ország olyankor így összeforrt, egy közös megszálló ellen. És
egységesé dans une unité contre les occupants.
Ebben a pillanatban, amikor önállóak vagyunk már 10 éve.
Et maintenant, au moment quand est devenu libre.
Hirtelen egymás, tehát nincs, elveszett a közös ellenségkép,
comme
és ettől így
valamilyen
gyakorlat, ellenségkereső gyakorlatból kifolyólag egymás közt keressük a hibást, és a nem megfelelőt.
On commence chercher l'ennemi entre nous-mêmes.
De ez igazából ez nem azzal függ össze a geográfiai dologgal.
Mais ça a peut-être rien. C'est peut-être pas à cause de la géographie.
Tehát, hogy mi magunkat talán egy ilyen, hát a felelősséget nem vállaljuk föl elég erősen.
Que peut-être qu'on prend, nous-mêmes, on prend pas la responsabilité suffisamment.
Hanem a hibákat mindig másra próbáljuk rátolni.
Mais qu'on essaie de pousser les fautes sur les autres.
À l'Institut français de Budapest, là où l'exposition de Bruno Burel vient d'être inaugurée, à côté de chaque photo de Bruno, il y a un texte de l'écrivain Parthi Nagy Lajos. Par exemple, avec cette photo qui décrit les pavés du château, il y a ce texte. Un pavé est toujours unique, ouvrage à main levée, approfondi, il s'accomplit par un ajustement patient, un martelage silencieux. Il prend le contour monotone de ce petit arc de cercle que forment les hanches et qu'effectuent les bras lors du travail. Motif de fontaine à quatre pattes, de gauche à droite et de droite à gauche. Des maîtres allemands, slovaques et hongrois ont jadis dessiné de bout en bout la ville avec une grande épointeuse en cuir sur les genoux. C'est au cours de ce pavage que Budapest est devenue brillante. Au château, ce qu'il en reste scintille.
C'est presque un petit film, toutes ces photos accompagnées de petites nouvelles, on pourrait
oui,
dire.
Oui, voilà, c'est des petits textes, des petites réflexions, des petites histoires, des petites nouvelles qui ne sont pas forcément en prise directe avec l'image, qui sont un peu... qui racontent donc un petit peu l'histoire du pays, de la ville. Il y a beaucoup d'humour, j'ai passé en fait pas mal de temps donc à chercher vraiment... un écrivain qui puisse faire travailler son imagination par rapport à un matériel visuel donc qui j'ai accumulé pendant une dizaine d'années, hein, parce qu'il y a des images, les premières images sont de 89, les dernières là-haut sont de 2001. Donc. Et en fait j'ai trouvé, donc, après deux ou trois ans de tâtonnement, un écrivain hongrois, donc Parthi Nagy Lajos, qui a... beaucoup d'humour. Moi, je trouve ces textes très, très marrants. Quelquefois très dramatiques, mais pas trop.
Et là, par exemple, on nous montrait tout à l'heure l'île Marguerite.
Voilà,
corps se confondent avec les pavés, presque.
Mm-hmm. Ça date de 89. Donc, quand je suis arrivé, c'était juste en dessous donc de ce pont dont on parlait tout à l'heure, où il y a cette île. C'est-à-dire, on est vraiment en plein milieu de la ville. Le pont Marguerite, je crois que c'est le pont qui a le plus grand trafic automobile. Il y a aussi tram et bus d'Europe de l'Est. C'est un pont énorme. Et en dessous, les gens se font bronzer.
Ce sont des moments aussi très, très fugitifs comme ça, de la journée, l'heure du goûter, le départ à la campagne. Là, cette photo avec les deux enfants dans l'escalier, c'est très beau, le mouvement du pied, de la tête qui se retourne, du bateau que le père tient la main.
Effectivement, on voit ces deux filles qui sont donc en espèce de costume. Ici, il y a encore beaucoup de... Dans les écoles, dans les familles religieuses, tout ça, il y a beaucoup de gens qui revêtent comme ça pour les fêtes des costumes un peu. Ils sont bien endimanchés, quoi, un peu. Et là, c'est tout à fait ça. Alors, savoir est-ce que c'est un type qui a trouvé un bateau dans un antiquaire, est-ce que c'est. Ils ont fait un cadeau pour un troisième enfant qui là n'est pas là, mais un grand garçon, je sais pas. Ils s'en vont vers la mer.
Cette jeune fille aussi qui dort dans le tramway avec un visage très paisible.
Voilà, ça c'est le... Je suis debout, en fait, dans le tram, avec mon appareil sur l'épaule. C'est-à-dire que je ne cadre pas. C'est-à-dire que je ne suis pas... Mon œil n'est pas derrière, pour justement ne pas déranger le repos et la sieste de cette fille, pour pas qu'elle me voie.
Et ce chignon de la dame, c'est presque un chignon de l'Est. On pourrait dire, on trouve plus de coiffure comme ça.
On en trouve, on en trouve.
Comme dans les années 50.
Ouais, mais justement, il y a encore ça. Hein. C'est pour ça que moi, je dis, c'est toujours une ville qui m'étonne, quoi. Tous les matins encore, pourtant depuis 10 ans, j'arpente le pavé, mais je suis encore étonné. Et tant que je serai étonné, je crois que je resterai là.
Et puis, il y a dans ces pages de Budapest la lecture du roman d'Imre Kertész, Le Refus. Pourquoi suis-je incapable de lire mon propre roman avec mes propres yeux ? Écrit Kertész. Par exemple, il y a dans le roman un train qui roule vers Auschwitz. Le héros du récit, un garçon de 14 ans et demi, est accroupi dans l'un des wagons à bestiaux. Il se lève et se fraye un chemin jusqu'à la fenêtre. Juste à ce moment-là, le soleil d'été pointe à l'horizon. Rouge, funeste. Pendant que je lisais, je me suis rappelé avec précision les difficultés que j'avais eues à écrire ce passage et le suivant. Sous ma main, sur le papier, les événements de ce matin d'été torride ne voulaient absolument pas se dérouler. Ici, dans la pièce où je peinais sur le texte, il faisait inhabituellement sombre. De ma table, je voyais un matin brumeux de décembre. Il devait y avoir un problème de circulation dans la rue. Les tramways passaient sans cesse avec fracas sous ma fenêtre. Soudain, avec une rapidité surprenante, les phrases se sont formées. Elles ont permis au train d'arriver et au héros du récit, le garçon de 14 ans et demi, de sauter enfin de la pénombre étouffante du wagon à bestiaux sur la rampe d'Auschwitz brûlée de soleil. Alors que je lisais ce passage, les souvenirs me sont revenus et j'ai constaté que les phrases s'organisaient comme je l'avais imaginé. Oui, mais pourquoi ne m'est pas revenu ce qu'il y avait eu avant ces phrases ? L'histoire brute, ce matin réel d'Auschwitz. Pourquoi ces phrases ne contenaient-elles à mes yeux qu'une histoire imaginaire, un wagon à bestiaux imaginaire, un Auschwitz imaginaire et un garçon de 14 ans et demi imaginaire, alors que j'avais moi-même été ce garçon ? Que s'était-il donc passé ? C'est un plaisir, Imre Kertész, d'être à Budapest et d'être chez vous, dans votre maison, dans votre lieu de travail. Parce que pour moi, Budapest, c'est aussi la lecture de vos livres et la mémoire aussi que vous pouvez avoir. Et c'est vrai qu'à travers votre histoire, on a aussi
la mémoire, là, on a rencontré beaucoup de gens qui ont, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans. Mais vous pouvez raconter aussi une Hongrie avant 56, la Hongrie aussi de...
Azt mondja, hogy nem sokkal körülbelül egy év körüli emberrel megismerkedtek itt, de hogy önnek egy másik története van, mert az 56 előtti éveket is.
Két lábú mozgó történelem vagyok, ha úgy akarja.
Il est l'histoire qui bouge sur ses deux pieds.
Valóban itt születtem 1929-ben, itt jártam iskolába, és innen vittek Auschwitzba, és ide jöttem vissza.
Il est né ici en 1929, il est allé à l'école ici, il a été amené à l'Auschwitz d'ici, c'est là où il est revenu après.
Mert akkor, tehát 45-ben lehetőség.
Il aurait pu aller en Suède en 49, il y aurait eu une possibilité d'aller dans les pays neutres, mais il se demande pourquoi il est revenu en fait, parce qu'il aurait pu aller ailleurs aussi.
Ez az első eset, amikor elmulasztottam, hogy nyugatra menjek, ahol mondjuk otthonosabban érzem magamat.
Je me sens plus chez moi à l'ouest au niveau par rapport à la culture, mais j'ai pas tenté cette chance.
A másik utolsó chance ez 1948-ban volt.
Et donc la dernière chance était en 1948.
A következő évben lezárultak a határok.
L'année suivante, les frontières étaient fermées.
De 1948-ban ugyancsak maradtam, mert akkor azt gondoltam, hogy mondjuk igen, 47-48-ban, mais akkor meg azt gondoltam, hogy a szocializmus...
En 47-48, je suis resté aussi, parce que je pensais que le socialisme allait être une belle chose.
49-ben rájöttem, hogy nem szép dolog, de akkor már nem tudtam elmenni.
Je me suis rendu compte de ça, que c'était pas en fait une belle chose en 49, mais je pouvais plus partir.
Másik lehetőségem 1956-ban lett volna.
Et donc il y aura eu aussi une chance en 56, mais entre-temps je me mettais à écrire et je me suis rendu compte que la langue m'attachait à ce pays.
Úgyhogy azóta itt vagyok.
Donc depuis je suis là.
Et quand on vit aujourd'hui à Budapest, on oublie que justement il y a eu aussi ça, ces déportations, ces communautés juives aussi qui faisaient partie de la ville.
Egyáltalán felejtik el, de ebben a pillanatban Budapesten igen éles és
malheureusement l'antisémitisme est plutôt une tendance très forte à Budapest. Et si c'est pas du racisme dont on parle, c'est au niveau du deuil qu'on se rappelle des juifs.
Nyugaton elképzelhetetlen szövegek látnak napvilágot.
Il dit que oui, que à l'ouest il y a des textes qui sortent qui sont vraiment inimaginables.
És ilyen tónusú beszédek hangzanak el a parlamentben, rasszista tónusú beszédek.
Et au parlement il y a des lectures qui sont plutôt racistes, des discours qui sont racistes.
Aujourd'hui
igen, tehát ma azt mondja, mai napon.
A mai napon ez most már olyan méreteket öltött, hogy az új budapesti amerikai nagykövet asszony fölfigyelt rá, és nyilvános előadásában, amit Budapesten tartotta, elmondta, hogy ilyen fokú antiszemitizmus a politikai elitben sehol a világon nem találkozott.
Ça commence à prendre une telle mesure que la nouvelle ambassadrice des États-Unis l'a remarqué, et donc elle a dit que jamais partout dans le monde a rencontré un tel antisémitisme dans l'élite politique. Donc c'est une nouvelle chose qui s'est installée après le communisme.
Et dans ce livre qui sort à Paris, Le Refus, qui est donc l'histoire du refus des éditeurs hein, d'être sans destin, et la suite de comment il a écrit après, à partir de ce refus. Est-ce que c'est toujours une histoire qui veut reprendre de roman en roman? Est-ce que c'est une qu'il n'y a pas de début ni de fin, en fait?
Hát ez tulajdonképpen... Na, szóval ez se csak egy önéletrajzi pszichológiai regény. Amikor ez a regény íródott, ez kezdtem kb. 78-ban.
J'ai commencé en 78, ce roman.
Brezhnevi halálcsend.
C'était l'ère de Brezhnev, le grand silence.
Ez egy nyugati ebben számára elképzelhetetlen ez a fajta állóvíz, amely itt megvalósult.
Donc c'était un état qui est inimaginable pour quelqu'un venant de l'Occident.
Ez a legcinikusabb hatalom, amit valaha is átéltem.
C'était le pouvoir le plus cynique que j'ai jamais vécu.
A mai kívül természetesen, de a mai az egy egészen más
terület. Non, parlons pas d'aujourd'hui, mais c'est une autre situation encore.
Szóval egész egyszerűen minden megállt, és az a szoba, amit leírok, és az a benne való keringés, az éppenséggel a szellem állapotát.
Mm-hmm. Et donc tout était arrêté en ce moment-là, et donc il y a une pièce en question dans ce livre, le refus que je décris, et c'est exactement la description de cet état d'esprit qui existait à ce moment-là. Donc en fait, ce livre a été une réponse au refus qu'il a eu, que j'ai eu grâce à mon premier livre, Être sans destin. Et donc finalement, ça décrit l'état d'esprit de l'écrivain qui veut sortir de cette société, mais qui y retourne finalement.
Oui, c'est presque aussi un livre de philosophie. Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que la responsabilité?
Igen, tehát hogy a különböző reakciók, hogy mi az, hogy élni, mi a felelősség.
Igen. Én nem hinném, hogy jó filozófus lennék, de és nem is vagyok filozófus, de
mondjuk, je ne pense pas que je sois un bon philosophe, un grand philosophe, mais en étant écrivain, si on avait vécu tout ce qu'on a vécu ici, on ne peut pas éviter ne pas en parler dans les romans. Il faut répondre à ce vécu.
Tudnék, az nem volt egy valóságos világ. Egyáltalán semmi sem volt benne valóságos, tehát egy annyira mesterséges.
Car c'était pas un monde réel, c'était un monde tout à fait artificiel. On n'a pas pu voir ce qui était réel. Le langage de ces sociétés, on savait bien que c'était un langage que demain personne ne comprendra, qui allait disparaître.
Nem lehetett leírni a foglalkozásokat, például.
On pouvait pas décrire les métiers.
Az, hogy pártitkár, mondjuk, vagy
secrétaire d'État,
termelő szövetkezeti elnök,
ou bien le président des coopératives, je sais même pas comment traduire. Ez
a mostani világ viszont valódi.
Mais ce monde d'aujourd'hui est réel.
Ugyanolyan abszurd, mint az előző.
C'est aussi absurde comme le monde auparavant.
De ennek az abszurditása valódi abszurditás.
Mais c'est une absurdité plus réelle.
Il y a cette expérience aussi de quand vous étiez adolescent, donc de partir, d'être arrêté et déporté à Auschwitz, et que raconter aussi cette histoire est impossible. C'est aussi ça, ce refus, c'est qu'il voulait plus entendre aussi ça, cette histoire.
Én sosem meséltem el ezeket a történeteket senkinek. Érdekes módon, tehát ha arra gondolom...
C'était d'un ton très irrévélant que j'en parlais, parce que quand je suis revenu, j'en parlais pas, en fait, mais on parlait de ça comme si on était dans une guerre, ou qu'est-ce qui s'est passé, dans un ton tout à fait neutre, objectif. Par exemple, on a volé un poulet, après on a fait ci et ça.
Pontosan arra kellett vigyázni, hogy nehogy véletlenségben a holokausztot akarja megírni.
Donc, il fallait faire très attention que je ne veuille pas écrire, de raconter tout l'Holocauste.
Tudnék, azt nem lehet megírni.
Parce qu'on ne peut pas écrire ça, décrire.
Én egy állapotot akartam, a sorstalanság állapotát akartam megírni.
Je voulais décrire, en fait, l'état d'être sans destin.
Tehát ezt az állapotot akartam megírni, amikor egy totális diktatúra olyan mértékben.
Donc je voulais en fait décrire cet état où une dictature totalitaire nous détermine nous met dans une situation où nous sommes obligés d'accepter la catégorie dans laquelle nous sommes mis. C'est un état très cynique presque. C'est un état dans lequel la société hongroise était avant la guerre et tout de suite après.
Tudni, Magyarországon, vagy legalábbis Budapesten egy főként asszimilált zsidóság élt, amely tökéletesen megbízott a saját gyilkos kormányzatában.
Car à Budapest, il y avait surtout des juifs assimilés, on dit, oui, qui faisaient confiance à son propre gouvernement.
Egy olyan hamis tudat alakult ki, amelynek eredményeképpen
három. Et donc c'est malheureusement grâce à ça qu'en trois mois, on pouvait déporter, ramasser et déporter 800 000 juifs ici, pour lequel on ne trouve pas d'exemplaires ailleurs en Europe.
És tulajdonképpen ezt az állapotot én nem is a gyerekként ismertem meg, tehát nem is.
C'est pas en étant enfant que je connaissais cette situation, parce que si j'étais allé à l'Occident en 45, je suis sûr que je n'aurais jamais écrit cette histoire.
Ehhez éppen ez a sztálinizmus kellett, azok a fordulatok kellettek, amiket 48-ban, 53-ban, 56-ban átélt az ember.
On avait besoin des tournures de 48, 53, 56, l'ère stalinisme, pour voir comment les masses sont manipulées, dominées.
Mindig azt szoktam mondani, hogy nekem a kommunizmus Auschwitz-ak az ugyanaz volt, mint Marcel Proustnak az a bizonyos Madeleine, amit bemártott a tejába. Tehát ott jöttem rá arra, hogy mi történt velem az előtt.
Donc il y a un moment quand Marcel Proust a mis une madeleine dans le thé, et donc il dit que c'est à ce moment-là, il a eu un moment pareil, c'est là où il s'est rendu compte qu'est-ce qui lui est arrivé avant. Cet état que je voulais décrire dans ce roman, c'était la structure intérieure du pouvoir totalitaire.
Et ça vous a permis de comprendre même aujourd'hui, en fait.
Valóban, de ez azért mégiscsak nagy meglepetés. Tehát erre nem volt felkészülve az ember, mondjuk.
En effet, mais c'était tout de même une grande surprise, tout ce qui est arrivé ces récentes années, c'était une grande surprise. J'étais pas préparé.
Meg lehet érteni természetesen, hogy az ember logikusan.
Si on regarde les années, les 40 qui viennent se dérouler, on peut bien sûr comprendre cette logique quelque part, mais en fait, on ne pensait pas que ça pouvait venir avec une telle force. Tehát az antiszemitizmus tulajdonképpen arról beszélünk.
Az antiszemitizmus az egyik hát motívuma ennek.
Donc, un des motifs, c'est l'antiszemitizmus.
Ez beletartozik abba az egész mentalitásbeli.
Donc je parle d'une contrainte mentale dans laquelle des pays de l'Est ont été forcés, qui ne peut pas changer pour le moment. Donc c'était étonnant de voir que le pays revient sur le même problème qui était déjà là en 1919, quand deux tiers du pays ont été coupés ou pris.
Comment ça se fait,
ça, c'est vrai? Hogy lehet ez? Hogy egyszerűen nem lett földolgozva ez a probléma?
Ezt kérdezi az ember magától, hogy lehet ez? Hogy lehet ez, hogy a struktúrák...
Oui, on se demande comment c'est possible que ces vieilles structures reviennent sans arrêt comme des psychoses.
C'est
inquiétant,
une répétition comme ça de l'histoire.
Oui, et quand on se dit, milyen aggasztó, hogy így megismétlődik a történelem.
Ez nyilvánvalóan nem Magyarország valódi érdekeit szolgálja.
Et donc ça ne sert pas les vrais intérêts de la Hongrie.
De hát én a magyar politikáról ennél többet nem igen szeretnék mondani, mert...
Je ne voudrais pas me mêler plus que ça dans la politique hongroise ou dire plus que ça.
Csak a történelemnek az, hogy hogyan állnak vissza ezek a struktúrák annak folytán.
Donc ce problème de Trianon, quand la pays a été démorcelé, ce problème, par exemple, pendant des décennies, n'était pas travaillé psychologiquement.
Ugyanezekből gyökerekből származik az itteni antiszemitizmus is.
Et donc l'antisémitisme qui s'est installé ici vient des mêmes racines.
De több mint fél millió zsidót gyilkoltak meg, és a ennek a lebonyolítása Magyarországon.
Un demi-million de juifs ont été exécutés. En fait, c'était pendant la, enfin grâce ou dans le pouvoir de l'administration hongroise que tout ça a été effectué.
De mindent a németek számlájára írtak.
Tout a été mis sur la facture des Allemands.
És egész egyszerűen nem akarják, letagadják, vagy relativizálják, vagy elkenik az akkori hatósok felelősségét.
Les Hongrois en fait évitent de parler de la responsabilité de l'administration de cette époque-là.
Un musée d'ethnographie, ethnologie, mais qui n'était pas auparavant, c'était un autre bâtiment. C'était
oui, c'était la palais de justice jusqu'à 1947. Après, pour des raisons politiques, on a changé le statut du bâtiment et c'est devenu d'abord la galerie nationale. Et quand la galerie nationale s'est déménagée, c'est le musée de l'ethnographie qui s'est installé ici.
Et donc on peut lire en fait toute l'histoire de la Hongrie à travers des objets comme...
Oui, c'est le titre de cette salle, c'est-à-dire le temps de la nation, c'est-à-dire comment un paysan ou plutôt un berger sculptait l'histoire de la Hongrie sur un bâton. Et on a agrandi les images. Et en fait, ce sont des grands événements historiques de la Hongrie qui est sculpté sur ces bâtons. Donc, des grandes batailles, des grands soulèvements et aussi des bandits célèbres qui étaient très importants pour les paysans.
En quelle année alors? Ça, c'était dans quel siècle?
Mais c'est 19e, début 19e. Pendant toute la 19e siècle, ça existait. Et même aujourd'hui, il y a un renouveau. Donc, c'est-à-dire, il y a des sculptures. Maintenant, ce sont des zones de sculptures qui font des objets de ce type.
Et tous les manteaux aussi de berger sont aussi une grille de lecture aussi pour comprendre.
C'est le manteau de Transdanubie qui est très spécial parce que c'est cousu les manches. Même les manches n'existent pas parce que la grande spécialité de ce manteau qu'on ne endosse pas, on met sur l'épaule seulement. Il s'est disparu en fait après la Première Guerre mondiale. Il y a une région en Hongrie où on porte encore en Transylvanie, dans une région célèbre, et là-bas c'est devenu un vêtement identitaire, c'est-à-dire c'est une minorité hongroise qui porte, et donc c'est l'identité hongroise qui se manifeste aussi dans ce vêtement.
Il y a une tendance peut-être aujourd'hui de justement à retrouver ce passé hongrois avant la période communiste. Est-ce que c'est un retour à... Comment vous vous situez, vous, qui êtes un jeune ethnologue?
Mais en fait, il y avait toujours des études, des recherches. Il y avait toujours une tendance de rechercher les origines des Hongrois qui vont en Asie, à l'Est. Mais en fait, bien sûr, il y a un renouveau après les changements. Tout le monde cherche son identité et beaucoup de gens retrouvent dans cette passé lointaine, quelquefois mythique. Donc il y a bien sûr un renouveau de ce type.
Ce sont des manuscrits, hein?
Oui, ce sont des calendriers. Et après, ce sont des montres. Étant donné que cette série de salles montre la mesure du temps, la mesure naturelle et aussi mesure, disons, ou le temps social. Ici, c'est le temps naturel qui
les horloges,
qu'on voit, des horloges. Le temps du monde.
Budapest, décembre 2001, dernière scène. La neige habite la ville. Et dans cette maison de danse, près du café central, la cadence monte, les groupes s'inventent, de tous âges. Ils dansent en cercle, ils se tiennent les épaules, ils entonnent un chant. D'un côté, il y a l'orchestre, et de l'autre, sur le mur, il y a une grande carte épinglée de la Hongrie avec le tracé des frontières de l'ancienne Hongrie.
Alors les gens viennent de très loin ici pour chanter tous ensemble.
Normalement les gens qui sont dans une ville et qui aiment la musique traditionnelle, ils viennent ici pour chanter, pour danser, pour apprendre des danses. Il y a aussi des autres gens qui dansent ailleurs dans des groupes amateurs qui viennent ici pour faire la fête avec musique et danse traditionnelle. Des choses de village en fait.
Et vous êtes très, très jeune, vous les connaissez ces danses de village?
Oui, c'est une sorte de passion, tu commences une fois et puis tu ne peux pas te débarrasser.
Ah oui. Et vous les aviez vus quand vous étiez enfant dans les villages ou c'est nouveau, vous venez les découvrir?
Moi oui, parce que bon, dans l'endroit où j'habite, ça existe encore dans les villages. Quand il y a un mariage, un baptême, on danse des danses traditionnelles encore. Mais pas dans les grandes villes.
Vous êtes de quel village?
Mais moi, je ne suis pas de village, mais moi, je suis pas... Je suis hongroise, mais pas d'Hongrie. Je suis hongroise de Transylvanie et là, ça existe encore.
Et vous, le monsieur aussi?
Azt kérdezi, hogy honnan tanult táncolni? És
jó, én még hazulról gyerekkoromban, én széki származás vagyok, erdélyi.
Lui aussi, il vient de Transylvanie, et il a appris quand il a été un enfant.
Ott 3 millió magyar él.
Parce que en Transylvanie, il y a 3 millions de hongrois.
Az első világháborúban csatolták el.
Et c'était dans la Première Guerre mondiale que Transylvanie a commencé
la franciák is hibások benne, az akkori vezetők.
A partir de Roumanie.
Mondja csak nyugodtan.
Et que c'est aussi
az
la faute de la France.
Et que c'est aussi
la faute de la France.
Qui plus la...
Hogy Magyarországot szétdarabolták akkor.
Que ça appartient plus à l'homme.
Az akkori vezetők, nem a mostanik.
La France d'antan.
Körös körül mi magyarok élnek Magyarország körül. 5 millió magyar él.
Parce qu'autour de l'Hongrie, il y a 5 millions de Hongrois tout autour de l'Hongrie, dans des autres pays.
Et il y a beaucoup de gens de Transylvanie ici surtout. Oui,
mais ouais,
oui,
ouais,
hein.
Ouais, c'est ça. Et c'est ouais.
Et on va suivre la danse alors, on va continuer à.
Ouais. Hein,
à... Merci.
Et pour signer la fin de ce dernier décembre 2001 autour de Budapest, Chantal Thomas, c'est peut-être vers vos carnets aussi de Budapest, parce que je sais que c'est une ville que vous aimez particulièrement et où vous allez régulièrement aussi, peut-être pas autant que d'autres, mais...
Oui, c'est surtout une ville que j'ai découvert en deux temps et en deux saisons, et avec une netteté extraordinaire dans les deux cas. Et la première fois, c'était en mai 95, et je suis venue en train de Vienne, et j'ai le souvenir dans le train même des parfums d'acacia qui arrivaient par les fenêtres ouvertes, et de cette lenteur du train, un train de campagne comme on n'en fait plus. Et par la fenêtre aussi, ça m'avait complètement ému, ça me rappelait Bruegel, les meules de foin, pas faites à la machine, mais faites à la main. Et ça, on n'a pas vu ça, j'avais pas vu ça depuis très longtemps.
Oui, comme les premières images d'une ville qui vous apparaissent, et voilà. On voit qu'on est complètement dans un autre temps. Presque.
Voilà, elle m'est arrivée à travers une campagne médiévale. Et cette emprise médiévale de la ville m'est restée tout au long. Et c'était aussi d'abord ce que j'avais senti, le parfum des acacias, qui après s'est concrétisé en me promenant le long du Danube, en véritable couche de pétales dans lesquelles je marchais. C'est quand même absolument extraordinaire, un peu comme dans un film de Stroheim. D'ailleurs, il y avait ça, il y avait le Moyen-Âge et Stroheim. Et c'était des journées complètement juste pour marcher, se promener, etc. Et je me souviens souvent les avoir commencées en allant au Gellert, nager. Et ça, alors là,
c'est cet hôtel, voilà, incroyable.
Voilà, dans cet hôtel complètement baroque et comme un vrai fantôme. C'est un hôtel fantomal. Et avec cette présence du passé... artificielle et reconstruite aussi, c'est peut-être pour ça que ça nous émeut si fort. Il y avait aussi les piaillements et l'excitation d'être comme dans un film, puisque j'étais allée dans le bain ouvert et que régulièrement se déchaînaient des fausses vagues. Et alors là, tout le monde hurlait, les enfants, les vieilles personnes, etc. Et on faisait comme si on était sur le point d'être renversé par une tempête monstrueuse. Pour moi, c'est ce mélange de toutes ce jeu, ces émotions, ce vertige de l'été qui commence, mais très violemment. Et dans la même continuité du blanc, je dirais, en suivant la même trame, qui était aussi un gâteau chez Gerbeau.
Oui, au café Gerbeau.
Oui, le diplomate pudding, qui est un miracle de blancheur. Alors, en suivant cette trame du blanc, je suis revenue le 15 décembre de la même année. Et là, c'était la même chose, mais avec de la neige. Et donc, j'ai repris la montée des petites collines, mais c'était la neige et l'obscurité, et quand même quelque chose de beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus difficile. Et les bains, c'était l'envers d'ombre, et de mystère, et de secret, c'était plus érotique aussi. Il y avait comme cette attente, des regards posés au-dessus de l'eau, et chacun qui se sait nu, ou presque, et qui pourrait s'atteindre, mais qui ne le fait pas.
Oui, c'est une ville où l'eau, non seulement dans les bains, mais avec ce Danube aussi qui la traverse, qu'on ne peut jamais oublier en fait.
Hein, oui.
C'est comme un air comme ça, oui, qui sépare les deux villes.
Absolument. Et c'est une ville close aussi, parce que dès qu'on se promène un peu, on tombe sur des suites de cours qui se répondent, mais qui ont l'air toujours abandonnées et habitées en même temps.
On va rester, Chantal Thomas, donc sur cette image des cours qui sont à la fois d'aujourd'hui et peut-être un peu fantomatiques. Merci à tous, à vous Chantal et à Imre Kertész et à Judith Bourrel donc pour sa traduction. Les deux livres d'Imre Kertész, Le refus et Être sans destin, sont parus chez Actes Sud. Peter Granastoy était donc au musée d'ethnographie. Janos Laxi, son recueil de poèmes Signes de vie, est publié aux éditions Le Taillis Près. Cataline Passementi, son film s'appelle La vraie vie. Christophe Forgas était au Café Bambi. Et Bruno Bourrel, son album de photos Budapest, Impressions et Lumières, est paru aux éditions Magvetto. Je signale aussi deux expositions dans la saison hongroise, Romain de Hongrie au musée de la civilisation gallo-romaine à Lyon jusqu'au 31 mai prochain, et puis les manteaux de berger, fiers magyars, c'est au musée de l'homme à Paris jusqu'au 28 avril, de Peter Esterházy que nous retrouverons donc début février dans un prochain carnet autour de Budapest, son dernier roman magnifique autour des figures du père, Harmonia Celesti, est paru chez Gallimard. Le livre d'Andras Torok, Budapest, ma ville, guide du flâneur, est publié par l'Institut français de Budapest. Et puis une anthologie aussi parue aux éditions Librio, Magyar, avec des textes d'Attila Joseph, de Peter Nadasch, de Peter Esterházy et d'Adam Bodor. Je remercie aussi Michel Bally et je signale que vous pourrez nous retrouver aussi sur notre site, donc sur le site de France Culture. Et vous pourrez réécouter ce carnet nomade. Vendredi prochain, nous serons en conversation avec Olivier Assayas. Carnet nomade, Jacques Vincent, Manuel Couturier, Arthur Gerbeau, Philippe Mercher, Sérine Lorta-Jacob, une réalisation de Vincent Deck, Colette Fellous, bon après-midi à tous.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 décembre 2001. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur notre site franceculture.fr. Thank you.
is.